Jean chapitre 1, versets 1 à 10. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre hommage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu.
Donc, merci, Élie, d'avoir lu ce passage. Dans le fond, mon partage des prochaines minutes va porter sur ces dix versets, puis aussi le reste du premier chapitre de Jean. Donc, si vraiment il y a de quoi qui ressort, qui vous touche, ça serait même merveilleux que vous puissiez revisiter le chapitre de Jean 1 en premier. Au courant de la journée, parce que il y a des moi ça m'a beaucoup parlé dans les derniers jours. Puis juste en partant, juste vous dire que ce qu'on vit aujourd'hui, puis les quelques mots que je veux vous partager, c'est des choses qui me touchent beaucoup personnellement. Par le passé, moi j'ai eu plusieurs moments où j'ai vécu la solitude, l'isolement, surtout quand j'étais ado, puis début vingtaine. C'était des années assez tristes, assez beaucoup de solitude dans ma vie, puis ça me portait souvent à des comportements qui étaient vraiment néfastes pour moi, là, très destructifs, puis très aussi culpabilisant, dans le sens que je ressentais toujours que je devais plus faire pour comme plaire à Dieu, puis d'une certaine façon passer par-dessus toutes ces les difficultés que j'éprouvais dans ma propre vie, puis je cherchais toujours quelque chose d'autre, puis donc c'est quelque chose de très personnel, puis j'espère que ce partage-là va vraiment juste vous parler, puis que ça va porter à de quoi d'encouragement dans vos vies. Fait que le silence et la solitude sont des cadeaux exceptionnels qui nous sont donnés par Dieu. C'est peut-être difficile à croire après ces longs mois de confinement, mais c'est le cas. Comment, vous me dites? Ben, par le simple fait que le silence nous permet d'entendre la voix de Dieu et la solitude nous permet de reconnaître sa présence. Mais attention, c'est pas simplement parce que nous sommes isolés de la plupart des gens qu'on est nécessairement attentif à la voix de Dieu ou même conscient de sa présence. Je suis sûr que vous avez vécu cette réalité-là dans les derniers jours. Dans le passage que je viens de lire, que Élie vient de lire, il est dit que tout ce qui est a été créé par la parole, et quand elle est la vie et la lumière des êtres humains. De plus, cette lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Nous savons que la parole, la vie, la lumière dont il est question dans ce passage-là se réfèrent tous à Jésus, le Verbe qui est à la source même de l'existence. À travers l'Antiquité, des femmes et des hommes ont reconnu la parole et lui ont prêté l'oreille. Ils ont trouvé la vie et se sont réjouis dans sa lumière. Mais reste que la plupart des gens à travers l'histoire ont ignoré sa présence. Et quand Jésus est venu sur terre en tant qu'homme, la majorité l'a aussi rejeté. Mais certains l'ont reconnu et l'ont accueilli. Jean, par exemple, qui vint rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste était un homme plutôt extraordinaire. Puis je parle ici d'extraordinaire au sens de bizarre, principalement. Il avait passé de longues années à vivre dans le désert, probablement associé à la secte des Esséniens, qui était une collectivité de Juifs qui vivaient près de la mer morte et qui attendaient impatiemment la venue du Messie. Il est dit dans la Bible que Jean se nourrissait de sauterelles grillées au miel. Puis non seulement il passait la majorité de son temps dans la prière, mais il se nourrissait d'insectes quand il jeûnait pas. Fait quand même spécial comme bonhomme. C'était un homme discipliné et déterminé, pour le moins qu'on puisse dire. Mais Jésus a même dit qu'il n'y avait pas de semblable à lui. C'était le plus grand des prophètes. Pourtant, même Jean a eu des moments où il avait de la difficulté à reconnaître Jésus. Lorsque Jean était en prison pendant le ministère de Jésus, Jean envoya des gens pour interroger Jésus afin de savoir s'il était vraiment le Messie. On peut se demander pourquoi il fut soudainement saisi de doute, seulement quelques mois après avoir déclaré devant tous « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ben, je pense que ces interrogations et ces doutes étaient fondés sur deux observations que Jean se faisait à ce moment-là. La première était en lien avec l'injustice et la souffrance qu'il voyait dans le monde autour de lui. Et la deuxième était en lien avec l'injustice et la souffrance dans sa propre vie. Tous les Juifs de cette période-là, au premier siècle, s'attendaient à un Messie qui serait leur sauveur. Mais le salut qu'ils recherchaient différait selon leur station dans la vie. Mais pour un Juif essénien comme Jean, qui avait passé des années à prier et à jeûner, qui avait passé tout ce temps-là à chercher la pureté dans le désert, parce que le baptême de Jean, c'était un baptême de purification. Il devait avoir un minimum d'attente. En tant que Messie tant attendu pour Jean, Jésus devait au moins confronter les leaders juifs et romains pour établir un nouveau royaume de droit et de justice pour que le peuple puisse apprendre de nouveau à honorer Dieu dans la sainteté et la pureté. Pourtant, Jésus semblait avoir aucunement d'empressement pour accomplir cet agenda-là. Il ne semblait pas se presser. Il passait son temps à manger et à discuter avec des pêcheurs. Il cherchait même à éviter la tension la plupart du temps. Comment allait-il pouvoir apporter la réforme nécessaire de cette manière-là? La réponse que Jésus a envoyée à Jean à travers ses disciples n'a pas dû être à 100% satisfaisante. Il a dit ceci, en citant une référence messianique vraiment bien connue. Il a dit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il dit ensuite « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Mais ces aveugles, ces boiteux, ces lépreux, qu'avaient-ils fait pour mériter toute cette attention-là de la part de Jésus? Puis comment des pauvres allaient-ils l'aider à reprendre le trône de David pour devenir roi? On peut spéculer pendant des heures sur tout ce qui devait passer par la tête de Jean-Baptiste, mais ces grandes questions théologiques et politiques, c'était pas juste ça qu'il y avait dans la tête de Jean, c'est certain. Jean était en prison pour avoir critiqué le comportement du présent roi des Juifs, Hérode. Sa vie était dans un état très précaire. Les systèmes de justice n'étant pas ce qu'ils sont aujourd'hui, à cette période-là, Hérode pouvait déterminer d'éliminer Jean à tout moment sans préavis. Puis c'est en effet ce qui est arrivé à Jean peu de temps après. Avec l'image qu'on se fait habituellement de Jean-Baptiste, c'est difficile de croire que Jean se lamentait dans sa cellule en prison, craignant la mort puis la souffrance aux mains de ses persécuteurs. C'est pas généralement de même qu'on voit Jean. Mais bien qu'il devait éprouver un certain niveau d'anxiété, peu importe son niveau de courage et de confiance, je crois que sa plus grande souffrance qu'il subissait à ce moment-là se passait à un niveau beaucoup plus profond. C'était pas juste la crainte pour sa vie ou la souffrance qui affectait Jean. Jean devait se demander « Pourquoi que moi je suis en prison maintenant que le Messie est arrivé? Pourquoi moi, le premier à avoir reconnu le Messie, pourquoi moi je dois pourrir seul en prison tandis que Jésus il prend tout son temps pour mettre les choses en ordre? Pourquoi ça se passe de même? Pourquoi je mets ma confiance en lui s'il semble même pas s'intéresser à régler les problèmes dans le monde ou même dans ma vie? Il me laisse ici. » Je crois que plusieurs d'entre nous pouvons avoir des questions vraiment similaires en ce moment. Puis si c'est pas le cas, peut-être que nous devrions nous poser des questions similaires. Parfois, lorsqu'on passe par des temps difficiles, on a tendance à nous distraire, n'est-ce pas? Par toutes sortes de choses qui peuvent être frivoles ou destructives. Nous savons que ces choses sont malsaines, puis qu'ils ne nous font pas du bien, c'est pas ce qu'on a en fait réellement besoin. Mais d'autres fois, on essaie plus fort que jamais de vaincre ou de triompher sur ce que nous vivons. On veut ensevelir les sentiments d'abandon et de rejet en spiritualisant nos circonstances et en nous efforçant de chercher la joie en dépit de tout à travers la prière et des pratiques spirituelles. Maintenant, comprenez-moi bien, ces choses-là sont certainement bonnes. Donc, pourquoi on vous aurait invité puis aidé à passer 28 jours dans la prière et les pratiques spirituelles si c'était pas bon pour nous? Certainement que ça l'est. Mais dans un cas comme dans l'autre, que nous cherchions à compenser notre inconfort à travers le péché ou la spiritualité, nous risquons de manquer le simple fait que Dieu est avec nous si nous ne nous approchons pas de lui tel que nous sommes, avec tout ce que nous expérimentons, toutes les erreurs que nous avons pu commettre jusqu'ici, sans rien cacher. Dieu nous connaît et sait nous rencontrer. Jésus l'a démontré de manière concrète dans ses interactions avec quelques-uns de ses disciples dès leur première rencontre. Et c'est ça qu'on voit dans le reste du chapitre de Jean 1. Certains d'entre vous, je suis sûr, sont comme André, frère de Simon-Pierre. André cherchait Dieu avec une foi simple et sincère. Avant de devenir disciple de Jésus, André était déjà un disciple de Jean. Il avait tellement soif de rencontrer le Messie qu'il ne pouvait même pas attendre son arrivée. Il s'était engagé de tout cœur à suivre celui qui faisait juste l'annoncer. Imagine. Son frère Simon, par contre, était plus dur à convaincre. Simon, c'est un pragmatique. Il ne partageait pas l'enthousiasme ni l'idéalisme de son frère. Par contre, lorsqu'André a annoncé à Pierre qu'il avait trouvé le Messie, il vint le voir quand même. Pour déterminer, semble-t-il, si c'était vrai ou bien s'il s'agissait d'un imposteur, comme tous les autres pseudo-messies qui s'étaient autoproclamés dans les dernières années, parce que Jésus n'était pas le premier. Vint ensuite Philippe, qui requit, on dirait, que deux mots de la part de Jésus pour tout laisser puis le suivre. Jésus a juste dit « suis-moi », selon ce qui est rapporté dans Jean 1. Dans son interaction avec Nathanaël, par contre, un autre disciple, quelques versets plus loin, on voit que c'est ce qu'il a vu chez Jésus qui l'a convaincu qu'il s'agissait réellement du Messie. Philippe invita donc son ami Nathanaël à faire la même expérience que lui. Il lui dit « Viens et vois ». Nathanaël, quant à lui, était bien plus suspect. Sinon, il était vraiment un cynique. Peut-être avait-il été brûlé par le passé, par des promesses messianiques qui n'ont pas été réalisées. Peut-être qu'il était simplement dans sa personnalité d'être un cynique. Qui sait? Mais d'une manière comme de l'autre, Jésus n'était pas offensé par la froideur avec laquelle il se présenta à lui. On peut même apercevoir un certain amusement, je pense, chez Jésus, quand il dit à Nathanaël « Oh, oh, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse! » Nathanaël avait besoin d'une preuve quand il est venu voir Jésus. Puis Jésus, il n'a pas hésité, il en a donné. Vous irez voir dans Jean 1. Alors qu'on se prépare aujourd'hui à passer quelques heures dans le silence et la solitude, nous mettant à l'écoute de la voix de Dieu, je veux vous inviter à prendre à cœur quelques vérités qu'on peut retirer de ce passage. Premièrement, c'est que de choisir de prendre du temps dans le silence, seul avec Dieu, résistant à la tentation de nous distraire par la télévision, les réseaux sociaux, même par la lecture d'un livre, je me sens visé ici, ouvre devant nous la possibilité de rencontrer Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour rien que Jean a pu reconnaître le Messie suite à toutes ces années qu'il avait passées dans le désert. Il faut croire que le fait de prendre un temps intentionnel pour écouter Dieu ouvre devant nous la possibilité de le rencontrer, simplement. Dieu l'a promis à son peuple, même dans les temps d'exil, à travers la bouche du prophète Jérémie. Il dit « Vous me chercherez, vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Ou bien c'est dans Proverbes, il y a deux versets très similaires, puis je me trompe des fois. Mais on voit cette promesse souvent dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, c'est pas parce que tu cherches Dieu et même que tu poursuis de tout ton cœur sa justice que tout va se placer en ordre et bien aller dans ta vie. Ça veut pas dire que tout va automatiquement se mettre en place. Jean, après avoir baptisé les foules et annoncé l'arrivée du Messie, a été mis en prison et exécuté. Il a eu des doutes. il a vécu de l'angoisse émotionnelle. Il a sûrement goûté à la dépression. Il s'est demandé s'il s'était trompé et si sa foi était en fait rien qu'une illusion. Jean, il s'est posé toutes ces questions-là. Sa réaction devrait nous servir d'exemple, par contre. Trop souvent, bien qu'on peut admettre qu'il existe des combats chez les hommes et les femmes de Dieu, on conclut de cette façon. Mais ils ont persévéré et gardé la foi jusqu'au bout. Oui, c'est vrai et c'est bon. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Jean et dans la vie de bien d'autres. Mais il faut faire attention d'éviter le triomphalisme spirituel. C'est pas par magie ou en transcendant sa situation que Jean a réussi à garder la foi. Et à persévérer malgré ses circonstances. C'est vraiment plus terre à terre, c'est plus naturel que ça. Jean a exprimé ses craintes, ses doutes et même ses critiques à Jésus. Ces critiques-là, y étaient bien présentes, bien qu'implicites, dans les mots que ses disciples ont amenés à Jésus. Je t'invite à faire la même chose. Dans le silence et la solitude, tu vas peut-être vivre des moments d'extase aujourd'hui. Je te le souhaite. Mais c'est encore plus probable que tu vas faire face à ce qui se passe réellement dans le fond de ton cœur. Ces choses-là, c'est justement notre crainte de faire face à ces choses-là qui nous distrait et qui nous porte à spiritualiser les choses par lesquelles nous passons. Ça nous fait peur, on veut pas y aller. Puis soit on se lance dans les distractions ou on spiritualise. Mais arrêtons de faire l'un ou l'autre. Disons à la place à Dieu tout ce qui se passe dans nos cœurs. Il le sait déjà, on le sait. Et comme nous avons vu avec Jean et même avec Nathanaël, il n'est pas offensé ni même dérangé par nos accusations ou même notre cynisme. Il est capable d'en prendre. Plus que ça, en épandant nos cœurs, notre âme devant Jésus, ça nous permet d'expérimenter la liberté d'avoir été réellement vrai. Puis ça nous réconforte parce qu'imagine, on a été reçu, accepté et accueilli exactement comme nous sommes réellement. Crois-moi, c'est ça que tu veux vraiment. Puis c'est ça que Jésus veut t'offrir en plus. Fait que laisse rien empêcher ça d'arriver. Et troisièmement, Dieu te connaît. Il sait te rencontrer tel que tu es et là où tu es. Peut-être que tu crois même pas en lui ou que tu remets ta foi en question. Parfait, viens à Jésus comme ça. Peut-être as-tu des arguments philosophiques ou scientifiques par rapport à la foi. Tant mieux, super, amène ça. Peut-être es-tu alourdi par ta propre souffrance. Puis c'est le cas de plusieurs, je pense, ou celle de tes proches, ou toute la souffrance que tu vois dans le monde. C'est trop des fois, ça nous appesantit. Peut-être que tu peux pas comprendre pourquoi que Dieu semble rien faire. Exprime-lui ça. Dis à Dieu ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. Ensuite, écoute. Peut-être entendras-tu une voix ou peut-être que dans le silence, tu vas recevoir une communication plus profonde que ce que les mots pourraient jamais exprimer. Mais écoute, attends, espère. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Comme l'auteur de l'Évangile de Jean a dit au début de son livre, « La parole était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Dieu est présent partout et en tout lieu, plus près de toi que ton propre corps. Il est la vie, il est la lumière. Puis c'est pas parce que plusieurs choisissent de demeurer dans les ténèbres que nous, on peut pas accueillir cette lumière-là. De plus, la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, comme il est dit dans Jean 1. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. À travers Jésus, on voit que Dieu est non seulement présent partout, mais il sait ce que c'est d'être esselé, abandonné et sujet à toute la gamme de souffrances qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Il connaît la douleur physique, mentale et émotionnelle. Il connaît la maladie. Il connaît la mort. Il a triomphé de ces choses, mais non en les transcendant ou en les minimisant, mais en exprimant en toute vérité à son Père ce qu'il éprouvait réellement sur la croix, en disant « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, et l'Esprit Saint nous aidera à reconnaître sa présence, puis il va nous rappeler de son accueil illimité. Fait que vraiment, je nous invite tous, approchons-nous de lui, tel que nous sommes, parce qu'il nous attend.